Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Alléluia. Alors on voit ici, c'est l'histoire de cet homme, un homme qui vient voir Jésus avec une question au fond de son cœur, et il nous est dit « Comme Jésus se mettait en chemin ». Et pour nous, tous ceux qui sont habitués à lire les évangiles, on s'aperçoit que Jésus, il ne se cantonnait pas à rester à un seul endroit, il allait partout pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et comme dans les temps que nous vivons, à ce moment-là, les gens qui étaient là dans toutes les régions avaient besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Et notamment la bonne nouvelle qui vient du ciel. Et cette bonne nouvelle, donc, Jésus était là pour pouvoir l'amener. Il est dit comme Jésus se mettait en chemin. Il parcourait les villes, les villages, les foules nombreuses venaient à lui. Et puis, donc, comme il se met en chemin, un homme accourut. On voit ici, au travers de son action, un homme qui a une situation, il est dans l'urgence de la situation. Il veut saisir l'opportunité parce qu'en fait, parce que pour réagir comme il a réagi, ça sous-entend qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Qu'il avait la capacité, qu'il était un grand maître, d'ailleurs il va le dire à un moment donné, mais il va avoir cette attitude qui peut nous étonner. Il va se jeter à genoux devant lui. Ça montre déjà quel état d'esprit avait cet homme et quel état de cœur. Il reconnaît en Jésus une autorité parce qu'il va lui dire « bon maître ». Le souci, c'est que peut-être il s'était passé sous le regard de la religiosité. Il reconnaissait Jésus comme un bon maître, comme un rabbin, mais pas comme le Fils de Dieu. Pour cela, il fallait avoir une révélation toute spéciale. Alors, la question, donc, il va se jeter. On voit cette attitude de cœur, donc, qui s'exprime par cette position. Il se jette à genoux devant le Seigneur. Et là, enfin, il peut poser cette question qui le taraude. Alors on ne sait pas depuis combien de temps, mais certainement pour avoir ces réactions, ça devait trotter depuis pas mal de temps. Et alors, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous ne trouvez pas que c'est une question importante, essentielle, et même existentielle? Donc, parce que cet homme se posait cette question, et donc cette question, elle est vraiment importante. Et même, chaque personne doit se poser cette question. Que faire pour hériter la vie éternelle? Donc, préoccupé par cette question, une chose est certaine, c'est que chaque être humain, ici-bas, sur Terre, à un moment donné, va pouvoir se poser cette question. Et si c'était vrai? Et s'il y avait une mort, une vie après la mort? Et si ce qu'on a pu me dire, c'est la réalité? Et si c'était vrai, toutes ces choses? Ecclésiaste 3.11 nous dit que Dieu, il est parlé ici de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même Il a mis dans le cœur, dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ici, la partie du verset qui est intéressante, il dit « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». Alors, il n'y a pas d'homme, on peut le dire avec des paroles en disant « Mais moi, je crois en rien ». Sauf que ici, la Bible nous dit que c'est Dieu qui met donc la pensée de l'éternité dans chaque être humain. Et cette question, donc cet homme, donc se l'a posée, et on remercie le Seigneur parce qu'il va y avoir une réponse de Jésus. Et quand il y a une question au fond de notre cœur, et quand on vient avec l'état d'esprit qu'avait cet homme, alors Jésus va répondre à sa question. La réponse, verset 19, il va lui dire « Tu connais les commandements ». Jésus va le ramener à la parole, il va le ramener à la loi, parce que le Seigneur savait toutes choses. Il va lui dire « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » Tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que déjà la barre était quand même assez haute. L'exigence de Jésus était quand même assez élevée, et pourtant ça ne sera pas encore nécessaire pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Donc lui, il avait interprété les commandements selon sa propre justice. Et donc, c'était comme une sorte de routine, et il faisait ça parce que c'était son éducation. Et donc, et déjà, c'était quand même pas mal. Il avait un bon départ, mais ce n'était pas suffisant. Cet homme, parce qu'il va répondre au Seigneur Jésus, il a dit, ces choses-là, je les ai déjà accomplies, je les ai déjà faites. Il se croyait sans reproche devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté quand vous partagez comme ça l'évangile avec quelqu'un, où il y a des personnes qui se pensent sans reproche devant Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est eux-mêmes qui mettent le curseur en disant, mais bon, pour certaines personnes, ce qui est vraiment grave, c'est tuer quelqu'un. Ce qui est vraiment grave, c'est voler, des choses quand même assez graves. La Bible nous dit que finalement, le péché, c'est pas trop ça. Enfin, ce sont les conséquences du péché. Le péché, c'est manquer la cible, manquer ce que Dieu donc voulait pour l'homme. Et la réponse du jeune homme, il lui répondit, « Maître, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » On peut entendre ici cet homme qui dit, « Mais finalement, ces choses-là, je les ai déjà faites. » Ce qui sous-entend, j'ai essayé avec la religion, que la religion réponde à ma question importante que j'ai au fond de mon cœur, mais ça n'a pas suffi. On remarque que cet homme, il ne ment pas. Quand il dit, mais j'ai fait ces choses-là, et j'ai observé toutes ces choses, il ne ment pas parce que Jésus, si c'était le cas, Jésus lui aurait dit. Donc cet homme, il ne ment pas. Donc il dit, maître, j'ai observé toutes ces choses. Pourtant, s'il était sérieusement appliqué à mener une vie morale, son âme n'avait pas trouvé le repos. Et donc, cette question le taraudait, et elle était toujours là. Alors, Jésus va lui montrer le chemin. Il va lui montrer comment parvenir à ces choses-là. J'aime beaucoup le verset 21 où il dit, « Jésus, l'ayant regardé, l'aima. » Ces paroles sont extraordinaires. On sait que chaque être humain a besoin d'amour, a besoin d'être aimé, de se sentir aimé. On ne peut pas vivre sans amour. Et l'amour idéal, l'amour vraiment profond, qui dure, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc Jésus le regarda, l'aima, et puis comme il l'aima, il y avait comme une affection, quelque chose a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ dans cette démarche, il va lui dire, il te manque une chose. Ben, finalement, on peut se dire qu'il n'était pas si loin. Il n'était pas si loin, il lui manquait une seule chose, mais tellement importante. Il va lui dire, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc ici, Jésus va lui dire, va, tu vends tout ce que tu as, puis viens, tu me suis. Alors, la proposition, elle est alléchante. une proposition de la part du Seigneur Jésus-Christ, mais nous, on peut le dire après avoir rencontré le Seigneur Jésus. Mais cet homme-là, il s'approchait de Jésus comme un moyen, un rabbin, quelqu'un qui allait l'enseigner, mais cet homme n'était pas prêt à tout abandonner. Dans les exigences du Seigneur, il n'était pas prêt à tout laisser. Il était pris, finalement, par l'amour de l'argent. On l'a vu ensemble, quand Jésus va aller plus loin, dans les versets plus loin, il va dire, mais c'est dur pour un riche de pouvoir trouver le chemin de la vie. Non pas parce qu'à cause des richesses, mais c'est à cause de l'attachement aux richesses. Parce que quand on parle de richesses, nous-mêmes, souvent, on met vite des curseurs. On met vite des barrières, hein, on est riche à partir de temps. Sauf que souvent, on va se comparer à celui qui est au-dessus de nous et qui a plus que nous. On aura de la difficulté à regarder avec celui qui a moins que nous. Et par rapport à celui qui a moins que nous, on est riche. Ici, là où nous sommes, alors nous sommes riches. Et Jésus va dire, il faut que tu abandonnes tout cela. Et pour suivre Jésus ici, l'image, c'est qu'il faut un abandon total. Et Jésus n'a pas fait un caprice ici. Il ne lui a pas dit ces choses simplement par caprice ou par dureté de cœur. Mais Jésus savait que c'était cette chose finalement qui l'accaparait et qui bloquait la présence du Seigneur. Alors, c'est quand même terrible parce qu'il y a dans la Bible des versets qui nous encouragent. Il y en a beaucoup. Des promesses, souvent quand traverser des moments difficiles, et quand on oriente notre cœur à rechercher le Seigneur, et quand on va dans sa parole, vous allez vite vous apercevoir que, on va lire la parole, et une parole va toucher notre cœur. Parce que cette parole, elle est vivante, et le Seigneur nous parle. Il y a des versets qui sont tellement extraordinaires, qui nous parlent de l'amour de Dieu, qui nous parlent de la bienveillance de notre Seigneur. Mais il y a des versets qui sont bouleversants, qui nous bouleversent, mais dans le mauvais sens. Et celui-là, c'en est un, c'est le verset 22. Il est dit, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Et ça, c'est terrible. Pour lui, c'était un choc, une surprise, parce qu'il ne s'attendait sûrement pas à la réponse du Seigneur Jésus. Et encore une fois, Jésus avait tapé dans le mille, parce que Jésus le connaissait. Il connaissait la personne qui venait s'approcher de lui et qui avait cette question. C'est parce que Jésus savait tout, hein, il peut tout, omniprésent, omnipuissant, omnipotent. Alors, ce verset, il est bouleversant, parce que cet homme, il partit affligé et tout triste. Et nous, on pourrait rajouter ce soir, quel dommage. Il n'était pas si loin. Il était même proche d'obtenir cette question qui le tenait, sûrement qui l'empêchait de dormir, la Bible ne le dit pas, mais qui sûrement l'empêchait de dormir même la nuit. Et là, il n'était pas si loin d'avoir cette réponse, d'avoir cette satisfaction après laquelle chaque être humain court. Il va partir tout triste, il va refuser l'offre. Et ça, c'est terrible. Pour répondre à la question, on va essayer d'y répondre pas au travers de la parole de Dieu, la question initiale, la question vitale, fondamentale pour nous. Comment hériter la vie éternelle? Comment faire? Est-ce que la Bible nous parle de comment faire pour hériter la vie éternelle? Avant de pouvoir dire de comment faire, j'aimerais vous dire que quelqu'un a déjà fait. Parce que souvent, nous, on est dans le faire. Autant qu'on puisse faire toutes les bonnes œuvres que l'on veut, ça ne sera jamais suffisant pour payer la dette que nous avons auprès de Dieu. Alors, comment hériter la vie éternelle? Simplement, par grâce. C'est un cadeau, une faveur imméritée. Et on trouve ce verset dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Il y a un rappel ici de l'apôtre aux Éphésiens, dit « Mais n'oubliez surtout pas que c'est par grâce que vous êtes sauvés ». Comment? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ici, au travers de ces paroles, on découvre qu'on aurait tendance, hein, le Seigneur l'a prévu, c'est une grâce de Dieu, parce que si ça avait été par les mérites, connaissant la nature humaine, on aurait vite eu tendance à s'approprier certaines choses. J'ai été sauvé parce que je le mérite, ou parce que ceci, ou parce que cela. Mais la Bible, elle est claire, c'est simplement par grâce, ce cadeau qui est immérité. Dieu nous donne le salut gratuitement, bien que nous l'ayons jamais mérité. Et ça s'appelle la miséricorde de Dieu, qui ne nous traite pas selon ce que nos péchés méritaient. Par quel moyen? On l'a lu. Par la foi. La foi, c'est simplement croire. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois, tu seras sauvé. Il y a un passage qui dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y aura cette transmission dont nous avons la responsabilité, ceux qui ont été à un moment donné éclairés par le Seigneur. La foi, cette assurance que ces choses sont vraies, elles sont véridiques, elles sont véritables. On a une confiance absolue que ces choses sont vraies. Et ça, c'est un vrai miracle qui s'opère dans les vies et dans les cœurs. Quand on parle de salut, et pour répondre à la question, comment faire pour hériter de la vie éternelle, il y a souvent des mythes qui sont posés dans la croyance, on va dire, globale de chaque personne. Il y a tout d'abord le mythe de la bonne personne. Certains, je le disais tout à l'heure, vont opposer, mais finalement, je ne suis pas une si mauvaise personne que une telle, mon voisin, la personne que je côtoie au travail. Certaines personnes réagissent comme ça. Si on posait la question, ou si je vous posais la question, croyez-vous que quand vous allez fermer vos yeux, quand vous allez mourir ici-bas, fermer les yeux sur cette terre, vous allez aller au ciel? Alors si la réponse est oui, alors on pourrait la justifier. Alors pourquoi? Pour quelle raison? Et donc il y a ce mythe de la bonne personne. Souvent, certains disent, mais ce sont les excuses avancées. Mais c'est parce que je fais de mon mieux pour essayer de mériter ou de gagner quelque chose. Je ne fais de mal à personne. Ah, et là, peut-être qu'il y aurait besoin de creuser. J'essaie d'être honnête avec les gens et parce que je suis une bonne personne. Et il y a des personnes comme ça, et ça existe. On côtoie des personnes qui sont bien sous tout rapport. Mais j'aimerais poser cette question. Est-ce qu'une bonne personne, ça existe? Alors, chacun répond pour lui-même, mais la Bible, elle répond. Elle donne une réponse à cette question que je viens justement de poser. Romains chapitre 3, versets 10 et 12 nous dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Pas même un seul. Ici, on découvre que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, règle le problème, répond à la question. Il n'y a pas de juste. Pourquoi? Chaque être humain naît pécheur. Il y a le péché qui est à l'intérieur de lui. Un autre verset connu, Romains 3, 23, « Car tous ont péché. Et comme tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Alléluia. Alors ici, il n'y a pas de bonne personne, on découvre qu'il n'y a pas de bonne personne. Ça semble un peu radical. Mais c'est la réalité des choses. C'est le constat que fait le Seigneur par rapport à chacun d'entre nous. Alors ça, c'est le fameux mythe, mais finalement, je suis une bonne personne. On voit que la Bible répond à cette question. Il y a un autre mythe, c'est la non-responsabilité. Nous avons des difficultés à reconnaître nos fautes. C'est pas ma faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Nous avons des difficultés à reconnaître nos fautes. Souvent, certains disent, c'est pas ma faute si j'ai un mauvais caractère. J'ai hérité ça de mes parents. Peut-être une part de vérité, hein. Il y a peut-être une part de vérité, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un
peut dire, si j'ai perdu mon travail, c'est le patron qui est méchant. Souvent, c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas ma faute. Si je ne paye pas d'impôts, c'est le gouvernement qui nous vole. Et en faisant ça, en fait, on est coupable de rien. On connaît tous ce verset central des évangiles. Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Au travers déjà de ce verset, il y a l'annonce de l'évangile. Souvent, on oublie le verset 17, le verset qui suit. Et le verset 17, il est tellement important parce qu'il nous explique le pourquoi du comment. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Voilà ici, finalement, l'appel et la mission du Seigneur Jésus. Il a été envoyé par Dieu le Père, il a été envoyé dans le monde, non pas pour le condamner, mais il l'a envoyé pour le sauver. Et Jésus se présente à chacun d'entre nous comme le sauveur de l'humanité, notre sauveur, hein, parce que pour la plupart, on a donné notre vie au Seigneur, mais si encore ce soir, certains ne l'ont pas fait, il faut qu'on puisse découvrir que Jésus est le sauveur de l'humanité tout entière. Et c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Nul ne peut aller au Père si on ne passe pas par lui. Encore une fois, ça semble radical, ça semble assez abrupt, droit, mais c'est le Seigneur qui l'a prévu comme ça. Alors, en terminant, cet homme, il a saisi l'opportunité. Il s'est approché du Seigneur Jésus, il avait cette question au fond de son cœur, et puis il est venu auprès du Seigneur, et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait un rendez-vous avec Jésus. Ce soir, dans une réunion hein, aussi simple que celle-là, il y a des rendez-vous à ne pas manquer. C'est les rendez-vous du Seigneur. Et ce rendez-vous, le Seigneur nous le donne. Alors aujourd'hui, l'urgence de se tourner vers le Seigneur. Encouragez, vous qui êtes là, qui avez donné votre vie au Seigneur, de continuer, même si la tempête est là, on l'a chanté tout à l'heure, hein, les difficultés sont là, mais le Seigneur est près de nous. Donc l'urgence de se tourner vers notre Seigneur, vers Dieu, et lui poser toutes les questions, dire « Seigneur, je viens vers toi parce que j'ai besoin de toi ». On parle souvent de se tourner vers le Seigneur, mais ça va pas, on ne doit pas s'arrêter là, on doit pouvoir s'approcher du Seigneur et se repentir. La repentance, un mot qu'on n'entend pas trop souvent, hein, ce mot, se repentir. La repentance, c'est regretter consciencieusement au fond de notre cœur notre état. Pour une chose, quand on reconnaît, quand on passe par cette nouvelle naissance, c'est le seul moyen pour pouvoir nous approcher de Dieu et hériter de la vie éternelle. C'est ce verset qui est écrit sur le mur, c'est être réconcilié avec Dieu. S'il y a besoin de réconciliation, il semblerait, c'est ce que nous dit la Bible, qu'il y a donc opposition entre deux parties. Il y a besoin de réconciliation. Et Dieu a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec le Père. Donc, je le disais tout à l'heure, le seul chemin, c'est le Seigneur Jésus. L'urgence de se réconcilier avec lui. C'est l'homme qu'on a vu, on a partagé l'histoire brièvement, il est parti tout triste. Mais pour nous ce soir, ça peut être différent. On peut repartir avec la joie d'avoir vécu quelque chose de réel, de profond avec le Seigneur. Mais pour cela, il faut vraiment s'approcher de Dieu et s'approcher de lui. Je vais inviter les musiciens à venir. On va prendre un temps dans la prière. Et surtout, j'aimerais répéter, ne repartez pas tout triste. Oui, Dieu seul et Jésus-Christ apporte le bonheur. Alléluia. Et à lui seul soit toute la gloire. Alléluia. On va prier, on va demander la grâce à notre Dieu. Et le Seigneur sait, je l'ai dit en introduction, il savait déjà qui allait être là. Il y a eu un effort d'évangélisation, mais on ne veut pas se décourager, on veut continuer. Parce que c'est en gardant, en fixant ce cap, que les choses vont pouvoir s'ouvrir, se décanter. On a besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Mais je crois qu'on doit profiter de ces moments où la présence de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, est au milieu de nous, afin de mettre les choses devant le Seigneur. On peut même avoir donné notre vie au Seigneur et en ce moment passer par des moments difficiles, des difficultés particulières. Et des fois, ça nous arrive, on bute toujours contre la même pierre. On tombe toujours au même endroit. Et si c'était ce soir, une soirée de délivrance, de libération, où l'action du Seigneur qui œuvre dans les cœurs se manifeste. En tout cas, on a prié dans ce sens. Vous avez prié, certains dans l'Église ont prié pour que le Seigneur puisse se manifester. Et je crois que quand la parole de Dieu est annoncée, elle ne retourne pas à lui sans avoir produit un effet dans les cœurs. Ça, je le crois de tout mon cœur. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est que le Seigneur se manifeste au milieu de nous, qu'il puisse se glorifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Te prions, Seigneur, mon Dieu, de tout notre cœur. Oui, ta parole, elle est bonne, Seigneur. C'est cette bonne nouvelle. Elle touche nos cœurs, elle nous bouleverse. Parce que tu es celui qui vient répondre aux questions que l'on peut avoir. Cet homme avait une question. Seigneur, toi, tu es venu pour lui apporter la solution, lui montrer le chemin, lui faire comprendre certaines choses, le détacher de certaines choses. Seigneur, cet homme est parti tout triste. Seigneur, je te prie pour nous tous qui sommes là, que nous puissions vraiment, Seigneur, accepter encore dans cette soirée la main que tu nous tends. Cette main, Seigneur mon Dieu, c'est une main qui est tendue du ciel. Je te remercie parce que le temps de la grâce, et c'est pour aujourd'hui. Nous vivons ces temps de la grâce, mais nous savons également que ce temps de la grâce, un jour, va s'arrêter. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, nous puissions ressentir l'urgence de la situation, de pouvoir nous tourner vers toi, pour te donner, Seigneur mon Dieu, les vies et les cœurs. Seigneur, ta parole a été apportée. Seigneur, maintenant, confirme-la par des signes, des prodiges et des miracles. À toi la gloire, à toi l'honneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen.